Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence avec Jean Mathias, presque en face de moi, José, toujours en régie, et puis aussi une connexion assez pourrie, donc pour la musique ça va être compliqué ce soir. Voilà, donc ce soir Jean Mathias va nous parler d'un livre d'Hervé Lebras, qui est démographe et historien, directeur de recherche émérite à l'INED et directeur d'études à l'EHESS, travaille avec Emmanuel Todd, qui est assez connu, et donc c'est un livre d'Hervé Lebras qui s'intitule « Le Paris du FN ». Donc ça va être notre émission antifasciste de l'année, comme a dit Jean-Mathias. Donc en fait on a fait d'autres, hein, des émissions, mais c'est, en général c'est un petit peu plus... on est un petit peu plus éloigné des joutes politiques. Alors, de quoi parle ce bouquin, Le Paris du FN? Ils ont gagné de l'argent?
Alors c'est toute la question, c'est savoir si effectivement c'est un pari de la part des électeurs du Front National qui sont fort nombreux et qui augmentent, hein, de manière assez régulière, à savoir si effectivement derrière il n'y a pas quelque chose comme un pari, et savoir si c'est un pari qui est rationnel ou pas. Donc c'est un peu ça le qui explique le titre du bouquin de Lebras. Alors c'est un bouquin qui est récent, hein, qui est sorti l'année dernière là, juste après en fait les résultats aux élections régionales, qu'ont vu du coup voilà la poussée du front aussi bien dans la région des Hauts-de-France désormais que en région PACA. Alors deux mots d'abord sur le l'auteur Hervé Lebras, et puis un petit peu la méthode et un peu l'originalité selon moi de son approche. Alors c'est aux éditions Autrement, ça tu l'as pas dit, hein, donc le bouquin. Alors Hervé Lebras, tu l'as dit, c'est un démographe.
Historien,
démographe, bon, c'est effectivement quelqu'un qui a travaillé pas mal avec Emmanuel Todd, qui est lui aussi démographe. Alors Emmanuel Todd, voilà, bon, peut-être que les auditeurs connaissent déjà un petit peu, c'est quelqu'un qui est très très médiatisé, très médiatique aussi, il faut le dire, bon, qui a signé un certain nombre de bouquins qui sont pas tous inintéressants d'ailleurs. Lebras, c'est un démographe et au sens un peu dur, quoi. C'est-à-dire que c'est un type qui s'intéresse, voilà, aux statistiques de population, à leur évolution au cours du temps, etc. Pourquoi j'ai choisi ce livre ce soir? Parce que donc c'est un livre qui fait une espèce d'analyse des évolutions de l'électorat du Front National depuis sa première percée aux élections législatives de 84 jusqu'aux derniers résultats 2015 compris. Et c'est, alors moi je le dis d'emblée, c'est le, pour moi, le livre le plus convaincant que j'ai lu jusqu'à présent sur le Front National, son histoire, ses dynamiques, et en fait les raisons de son succès relatif et qui se dément pas depuis près d'une trentaine d'années. L'intérêt du bouquin, c'est au fond d'aborder la question du Front National avec des outils qui sont ceux des sciences sociales, non pas pour faire chic ou pour faire intelligent, mais pour essayer de montrer que la plupart du temps, en fait, les progressions du Front National et puis son explosion même lors de certains scrutins est abordée de manière beaucoup trop idéologique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose dans les débats, autour du Front National, que ce soit dans les médias ou même y compris dans les milieux politiques, y compris Antifa, il y a souvent une concentration des discussions autour des slogans du Front National, de son programme. Alors évidemment, immigration, insécurité, bien entendu, et puis plus récemment la question de la souveraineté face à l'Europe ou ce genre de choses. Et d'après Lebras, en fait, il y a quelque chose... alors, c'est pas que c'est des débats qui sont illégitimes, hein, puisqu'évidemment, il faut le combattre aussi sur le terrain idéologique. Mais d'après Lebras, c'est des débats qui manquent finalement quelque chose d'assez essentiel, c'est-à-dire de comprendre finalement qui vote Front National exactement. Et lui, sa thèse, c'est que, en fait, c'est pas l'idéologie du Front National qui entraîne les électeurs, ça serait en réalité plutôt l'inverse, quand on regarde l'histoire de l'électorat et puis sa géographie de manière un petit peu fine. Au fond, sa thèse, c'est que c'est les idéologues du Front National qui courent après leur électorat depuis près d'une trentaine d'années, et le tout avec évidemment un certain succès. Donc ce qu'il considère, alors après on peut discuter après sur le fond, hein, mais lui sa thèse c'est de dire que le Front National, alors il y a évidemment un noyau idéologique historique de l'extrême droite, l'antisémitisme, le racisme, etc.
Vichy, guerre d'Algérie,
mais que ce noyau là il n'explique absolument pas l'ampleur du succès du Front National aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la face émergée de l'iceberg, cette affaire-là. Alors, c'est pas anodin, bien évidemment, mais d'après lui, si le Front National est à des scores, comme on les connaît aujourd'hui, après des périodes où l'extrême droite a complètement disparu de la carte électorale française pendant des décennies, c'est pas uniquement pour des raisons idéologiques, et sans doute pas de manière première à cause de cela. C'est-à-dire que ce qu'il propose, lui, c'est d'essayer dans ce livre, d'étudier finalement toutes les hypothèses qui sont avancées régulièrement pour expliquer cette progression du Front National. Alors bon, la psychologie de l'électeur, l'histoire de l'extrême droite, la pertinence des slogans qui seraient liés à certains milieux sociaux, ou la présence de l'immigration, ou l'appréhension de l'insécurité, etc. Et ce qui montre de manière très convaincante, le texte est très, très accessible et en même temps assez bluffant de ce point de vue-là. Ce qui montre, c'est qu'en fait, aucune de ces explications ne rend compte de la progression globale et surtout des évolutions locales de ce vote-là.
La progression géographique.
Progression géographique et répartition du vote au cours des années. Alors, donc lui, ce qu'il propose dans ce livre-là, c'est d'utiliser des outils qui sont ceux de la démographie. Alors, c'est un livre qui est rempli de cartes, notamment. Pour identifier un petit peu les évolutions de l'électorat Front National depuis 84. Donc ça, c'est un petit peu dur à restituer à la radio, mais c'est un des points forts évidemment du livre. Et son idée, c'est d'étudier ça de manière précise, alors à l'échelle globale, c'est-à-dire à l'échelle de l'électorat national, mais aussi après, il dit en fait ce qu'on rate quand on reste à une représentation comme ça nationale de l'électorat, c'est tout ce qui se passe et tous les déplacements qui ont lieu à l'intérieur de chacun des départements et même à l'intérieur de chacun des cantons sur les 30 dernières années en termes de distribution du vote Front National, que ce soit sur la répartition géographique des électeurs, mais aussi sur les catégories sociales, les classes d'âge, le niveau de diplôme, etc. etc. Donc c'est un vrai travail de sciences sociales appliqué à un phénomène politique, à savoir l'explosion et la diffusion des idées du Front National. Et je trouve que c'est un outil qui est très intéressant pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à lutter contre ce phénomène-là, y compris les conclusions et la thèse qu'il défend dans cette affaire-là, quoi. Alors du coup, pour rentrer un petit peu dans le détail du bouquin, son point de départ, donc c'est ce qu'il dit dès l'introduction, alors carte à l'appui là encore, avec des cartes très fines du point de vue de la répartition. Il les explique, donc ça c'est page 5, je cite donc le début du livre. « La répartition des votes Front National dessine sur la carte de France une structure forte que ni les discours des dirigeants ni ceux des analystes politiques ne laissent deviner. Les élections départementales de 2015 en livrent le témoignage le plus récent. On distingue nettement sur la carte de France trois couches. La première couche occupe deux vastes zones, au nord d'une ligne allant de Caen à Belfort et le long du rivage méditerranéen sur plus de 100 km de profondeur. » Donc vous situez, c'est-à-dire qu'en fait c'est le tiers nord-est de la France, plus le rivage méditerranéen. Première couche donc de cet électorat, là où le Front National a atteint ses scores les plus élevés, donc parfois au-delà de 40%. Alors cette première couche, c'est la plus ancienne couche, nous dit Lebras. Elle remonte au premier résultat massif du FN lors de l'élection européenne de 84. La seconde couche a l'apparence d'une tranche de gruyère dont les trous correspondraient aux principales agglomérations, où le vote FN s'effondre, tandis qu'il prospère à leur périphérie. Alors là, il faut vous représenter ça sur une carte. Ça signifie... En fait, vous voyez, quand vous avez les cartes sous les yeux, c'est assez impressionnant. Autour de chaque métropole française, vous avez un trou dans les succès du Front National. C'est-à-dire que vous avez des taches comme ça, toute la carte de France est mitée. Alors elle est mitée autour de Paris, bien évidemment, elle est mitée autour de Lyon, autour de Grenoble, autour... Marseille, c'est un petit peu différent, mais la ville elle-même ne dément pas ça. Bordeaux, Nantes, Rennes, Brest, Limoges, etc. Enfin, toutes les villes importantes ou d'importance moyenne sont des trous noirs pour l'électorat Front National, où il a complètement déserté. En revanche, dès qu'on s'éloigne dans les marges de ces métropoles, là, le vote redevient fort.
Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que...
On va y venir.
C'est les citadins qui votent pas Le Pen ou c'est les pauvres qui votent Le Pen ?
Alors, c'est plus compliqué.
Les pauvres ayant été chassés des villes.
C'est ni l'un ni l'autre. Lui, on va voir comment il essaie de construire des outils d'analyse un peu plus fins que ça. Mais donc, ça, c'est la deuxième couche. C'est-à-dire, en gros, ce qui est très médiatisé aussi, souvent, ce qu'on appelle le Front National périurbain, si vous voulez. C'est-à-dire, les grandes périphéries, la grande couronne parisienne et puis les grandes banlieues des métropoles métropole française. Donc ça, c'est la deuxième couche qui a l'apparence donc, de cette tranche de gruyère. Et cette seconde couche, nous dit-il, elle s'est solidifiée lors de l'élection présidentielle de 2007, qui est un tournant, d'après lui, lorsque Sarkozy a tenté un hold-up des voix du FN, ce qu'il a mieux réussi dans les villes que dans les campagnes. Donc deuxième couche de cet électorat. Le premier, donc, c'est la couche historique, hein, le tiers nord-est de la France, plus la Méditerranée. Le deuxième, c'est la périurbanisation de toutes les grandes villes. Et la troisième couche, elle est composée de grands axes de circulation. Le couloir rhodanien, donc la vallée du Rhône, la plaine alsacienne et la vallée de la Garonne, après Toulouse, principalement. Et d'après lui, cette troisième couche, là, il y a une explication qui donne tête d'emblée, constitue l'ultime trace d'une diffusion initiale explosive, à la manière, nous dit-il, dont le rayonnement fossile à 3K est un vestige du Big Bang. Hein, c'est-à-dire que il insiste beaucoup en tant que démographe sur les raisons géographiques, vous verrez plus tard, là, j'en reparlerai aussi, que la diffusion du vote Front National le long des voies de communication naturelles, c'est-à-dire notamment les vallées, est assez impressionnante. Hein. Alors, le tout mesuré sur une trentaine d'années, hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement une vue de l'esprit comme ça, c'est on voit clairement des voies de diffusion le long de la vallée de la Garonne, le long de la vallée du Rhône, hein, ça c'est, et dans la plaine alsacienne.
Les militants pour Front National voyagent en péniche ?
Ils ne voyagent pas en péniche, mais les idées circulent plus rapidement, et il y a des résultats qui sont complètement assez stupéfiants, où ils te montrent que, par exemple, l'altitude est un facteur, est un plafond de verre pour l'électorat Front National. C'est-à-dire que si tu regardes la répartition des voix canton par canton, voilà, dans les zones voilà, où tu as des dénivelés, et au-dessus d'une dénivelée, c'est terminé. C'est-à-dire que le Front National ne progresse plus, et sur 30 ans. Hein, c'est assez significatif. Donc il y a cette diffusion là, donc aussi bien les vallées que l'altitude, etc. J'y reviendrai après. Donc c'est ces trois couches là. Alors
c'est une approche ultra matérialiste.
C'est ultra matérialiste.
Sur la circulation des idées, c'est marrant.
Sur la circulation des idées, ouais, c'est assez impressionnant. Mais sur la, il y a des analyses là sur la vallée du Rhône qui sont, enfin la vallée de la Garonne pardon, qui sont, enfin voilà, c'est assez stupéfiant quand tu vois l'évolution des cartes, la répartition des scores électoraux, c'est assez scotchant. Alors il explique, il part après pour expliquer un petit peu quelles sont les hypothèses qui sont souvent avancées pour expliquer ça. Alors il nous dit, on a souvent attribué chacune des couches à une pulsion psychologique particulière des électeurs. La première couche, donc la principale, si vous voulez, nord-est de la France et Méditerranée, exprimerait le rejet de l'immigration car elle correspond aux régions où les immigrés résident le plus fréquemment. La seconde couche, les périurbains, les zones périurbaines, traduirait le sentiment d'exclusion des classes populaires reléguées loin des villes. Quant à la troisième, elle répondrait au sentiment maintes fois exprimé lors d'interviews ou simplement au comptoir des cafés que, entre guillemets, on n'est plus chez nous à cause du va-et-vient des populations. Les trois motivations coaguleraient en une sorte de ras-le-bol qui trouverait son exutoire dans un vote de protestation. Alors, il dit que ça, c'est très bien à première vue, cette affaire-là. Et de fait, on tourne en permanence autour de ces trois explications-là, hein, la plupart du temps. Mais il dit que c'est peu probable que ce soit des explications qui fonctionnent parce qu'il est difficile de croire qu'une protestation dure pendant 31 ans. De 84 à aujourd'hui, ce que d'ailleurs elle ne fait pas. Quand on va regarder les cartes de près, en réalité, ce ne sont pas les mêmes personnes qui votent Front National depuis 30 ans. Hein, y a une circulation des votes qui est tout à fait intéressante. Alors, la psychologie, il n'y croit pas dans cette affaire-là. Par exemple, il va montrer que il y a aucune corrélation en fait entre la présence des immigrés et le degré de vote Front National. Ce qu'il est bon de rappeler quand même, c'est-à-dire que les scores les plus élevés du Front National, ils sont dans des zones où il y a peu d'immigrés. Et là où il y a beaucoup d'immigrés, le vote Front National est beaucoup moins important. Et le fait que les ouvriers soient plus fréquents en zone rurale et que le vote FN y soit plus élevé n'explique pas pourquoi, nous dit-il, 15% seulement des ouvriers de la région Midi-Pyrénées, par exemple, votent FN, mais 48% des ouvriers de la région Champagne-Ardenne votent Front National. C'est-à-dire que dès qu'on cherche une explication un peu globale en termes de vote ouvrier, de vote périurbain ou de machin, le problème dit que ça marche pas parce que dès qu'on regarde l'ensemble des votes, eh ben, y a des départements ou des zones ou des cantons dans lesquels on va voir voilà, des votes ouvriers extrêmement importants en périurbanisation et d'autres votes ouvriers en périurbanisation beaucoup moins importants. Ce qui fait que c'est pas tout simplement voilà, un facteur pertinent. Hein. Et évidemment, il rajoute aussi voilà, le fait que les ouvriers ils sont aussi très nombreux dans les villes.
Oui.
Hein, dans les villes. Alors ils se tassent, ils sont à l'étroit, mais il y a beaucoup d'ouvriers dans les villes, là où le vote Front National n'est pas justement important. Donc la psychologie, ça marche pas. Alors après, il dit, il y a quand on
ni la sociologie d'ailleurs.
La sociologie marche pas non plus. Une sociologie basique comme ça fonctionne pas. Hein. Donc ça c'est clair. Alors après, il reste l'histoire. Donc il dit, on peut aller chercher des raisons de ce vote-là en essayant de faire une espèce d'histoire électorale de l'extrême droite. Et il dit, alors là, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Et alors il le montre, il y a tout un chapitre qui est consacré à ça, assez passionnant d'ailleurs, où en fait il reprend les résultats électoraux depuis l'affaire Boulanger au 19e, en passant par Poujade, Tixé-Vignancourt, jusqu'au Front National, et il montre que ça ne colle pas, c'est-à-dire que les cartes ne se superposent pas. Hein, il y a eu des poussées, effectivement, de vote boulangiste dans des zones où le Front National n'a jamais percé. Même chose pour le poujadisme. Hein. La carte de l'Algérie française, enfin voilà, des partisans de l'Algérie française, genre Tixé-Vignancourt, etc., fonctionne très partiellement, c'est-à-dire qu'il y a des zones où il n'y a jamais eu de présence Algérie française et où le Front National est au-dessus de 40% aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que l'explication historique ne fonctionne pas beaucoup mieux. Hein. Alors après, il y a l'explication idéologique qui consisterait à dire, bah, du coup, les électeurs ils suivent parce qu'ils sont racistes, xénophobes ou ils sont victimes de l'insécurité. Alors là, il dit, là c'est sans doute là où c'est le plus massif, c'est-à-dire que les slogans ne correspondent pas en tout cas au vécu des électeurs Front National, au Front National, je ne sais pas comment il faut dire, compte tenu de la carte. Donc, c'est là où il insiste pour dire que, d'après lui, on a affaire à un parti qui est infiniment plus opportuniste, mais sur le fond, que ce qui est présenté habituellement. Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment que les cadres du parti et que la famille Le Pen n'aient pas ses convictions en son fort intérieur, ça, tout le monde en est bien convaincu, mais ce n'est pas parce qu'ils ont ces convictions-là qu'ils sont suivis aussi massivement par une bonne partie de l'électorat un peu partout. Et donc, en fait, c'est d'abord sur le constat de l'échec de ces explications-là qui propose, du coup, d'utiliser d'autres outils que ceux qui sont habituellement proposés pour expliquer ce vote, pour tenter d'expliquer. Alors, il dit qu'il fait ça d'ailleurs avec une certaine humilité en disant que il n'a pas d'explication miracle pour le mystère l'explosion du Front National, mais qu'il pense qu'il est important de s'intéresser, alors non pas forcément au discours politique explicite des électeurs qui masquent ou qui sont pas forcément significatifs au fond des raisons pour lesquelles ils votent, mais que évidemment il faut essayer de rentrer un petit peu dans le marigot des sentiments diffus qui peuvent coaliser et coaguler différents types d'électorats a priori hétérogènes. Donc il faut aller regarder du côté des formes de vie sociale des uns des autres, du côté des rapports à l'entourage, du côté des aspirations des gens qui votent Front National, et il faut regarder ça d'un petit peu près. Alors dans l'intro, je résume un petit peu, si vous voulez, les grandes lignes du livre, après je rentrerai un peu dans le détail. Au fond, lui, les explications qu'il propose, c'est alors, sur les trois couches qu'il a distinguées au départ. Donc première couche, je rappelle, le nord-est de la France et le bord de la Méditerranée. La deuxième, donc, c'est plutôt l'électorat périurbain. Et la troisième, c'est les axes de communication, Alsace, Vallée du Rhône et Vallée de la Garonne. Alors il dit, la première couche, au fond, elle s'explique assez largement, au moins statistiquement, par finalement des raisons qu'il va chercher du côté de l'anthropologie, du côté de ce qu'il appelle, je vais revenir là-dessus après, mais sur une espèce de crise des relations de voisinage qui, jusqu'à les années 80, si vous voulez, était en général une source de solidarité, de connaissance et de réciprocité entre les personnes, et qui, du fait de la crise, de l'explosion périurbaine et des mutations de l'habitat, notamment dans les grandes banlieues et aussi dans les zones d'open field, donc de champs ouverts, nous dit-il, ont eu pour conséquence finalement qu'on a des zones entières en France où les gens ne connaissent plus directement leurs voisins, et où du coup l'immigré devient finalement le symbole ou le symptôme, si vous voulez, de cette espèce de crise de sociabilité qui est fondamentale pour tout un chacun, mais du voisin inconnu et menaçant. En quelque sorte. C'est pas du tout lié avec une présence réelle d'immigrés dans le village ou dans le quartier, etc. Mais c'est comme ça l'argument qui lui paraît le moins faux, du point de vue de, des chiffres et puis des données qu'il a.
Alors ça, ce serait la destruction du tissu social.
Alors, pas n'importe quoi dans le tissu social.
De la sociabilité.
D'un certain tissu social. Ah. C'est-à-dire qu'il montre par exemple que ces zones-là sont des zones alors, soit des régions industrielles, mais pas des villes industrielles, hein, parce que les villes, c'est encore un cas différent, mais soit des régions industrielles, soit des zones agricoles d'open field, c'est-à-dire de champs ouverts, dans lesquelles, effectivement, les relations de sociabilité et le type de solidarité qui va avec ce mode d'exploitation-là ont disparu, et de manière quasi définitive, à partir des années 80. Et ont vu affluer des nouvelles populations, alors exclues des villes, pour un certain nombre de raisons, mais qui fait que cette sociabilité qui était ancrée en raison des modes d'exploitation agricole, de champs ouverts, etc. Cette crise-là, effectivement, explique assez largement, d'après lui, les succès du FN. Qu'on ne retrouve absolument pas, par exemple, dans des zones qui sont pourtant beaucoup plus individualistes, tout l'ouest de la France, où le Front National ne prend pas pied. Il dit, ce qui est assez impressionnant, c'est que les cartes du Front National, elles s'arrêtent, la progression du Front s'arrête de manière presque systématiquement aux zones de bocage. Aux zones de bocage, alors les zones de bocage, il faut bien voir, donc c'est là, c'est une exploitation agricole beaucoup plus privatisée, avec une culture familiale, des structures familiales, des liens de transmission du patrimoine qui sont beaucoup plus individualistes pourtant, mais la solidarité a toujours été moindre sur ce voisinage immédiat dans ces régions-là, ce qui fait qu'il n'y a rien de perdu, si vous voulez, du point de vue des mutations démographiques et des changements des modes de vie. Et ça expliquerait, selon lui, que le Front National ne prend pas pied sur les zones de bocage et que ça fait 30 ans que ça dure. Alors qu'au contraire, dans les zones d'Enfield, etc., là, il y aurait cette sociabilité villageoise et cette solidarité de voisinage qui, elle, a disparu. Alors pour plein de raisons, il n'y a pas que les raisons de mutation, de regroupement des exploitations, etc. Il y a aussi la création des grandes surfaces, la fin des commerces de proximité, la motorisation avec la voiture, la privatisation qui, en quelque sorte, a des effets beaucoup plus importants en termes de sociabilité dans ces zones-là, liées effectivement à la sociabilité et au type d'exploitation agricole qui existait, que dans des zones historiquement beaucoup plus individualistes, d'ailleurs beaucoup plus à droite la plupart du temps. L'Ouest est beaucoup plus individualiste, beaucoup plus à droite, aussi statistiquement beaucoup plus catholique. Beaucoup plus catholique, donc c'est les raisons, les explications en termes de tradition, etc., ne fonctionnent mal hein, en réalité. Donc ça, c'est la première couche, d'après lui, c'est là que ça s'explique assez largement. Et en termes de diffusion, il propose en fait un modèle qui est en fait emprunté à l'épidémiologie, qui est une science, des branches des sciences médicales. Et il compare ça avec la diffusion qu'ont pu connaître deux mouvements, mais à des échelles évidemment beaucoup plus réduites, à savoir le CPNT, donc les chasseurs. Notamment dans l'intérieur de la Somme.
Chasse, pêche, nature et tradition.
Et le mouvement de Devilliers, le mouvement pour la France, carte à l'appui, qui partait de Vendée, et qui n'est jamais allé beaucoup plus loin que la Vendée d'ailleurs, mais qui, dans sa diffusion, a suivi. C'est pas le même électorat que le Front National. On verra que c'est compliqué, parce qu'en fait, les villéristes ne votent pas forcément le Front National, les chasseurs non plus, d'ailleurs. Certains oui, mais pas tous, et loin de là. Et donc, la diffusion, par contre, de ces deux mouvements correspond à des diffusions d'épidémies grippales ou de n'importe quel type de virus, c'est-à-dire que vous avez une espèce d'explosion comme ça et ensuite une fixation. Une fixation des votes. Et ceux qui ont voté au départ et qui étaient au moment de la diffusion ne votent plus sur la durée. Par contre, vous avez des foyers comme ça, de fixation, exactement comme la diffusion d'un virus ou d'une épidémie quelconque. Donc ça, c'est ce qui explique la première couche, qui est le socle, si vous voulez, du front, aussi bien sur le nord-est de la France que sur les bords de la Méditerranée. Alors, la deuxième couche, donc les zones périurbaines, si vous voulez, les grandes banlieues de la plupart des villes françaises. Alors, c'est un peu les mêmes raisons, en partie. C'est un peu les mêmes raisons que pour la première. Sauf que là, il y a des raisons sociologiques qui s'ajoutent. C'est-à-dire que là, on a des gens de classe moyenne qui ont été chassés des centres-villes par le marché immobilier, qui ont des niveaux de diplôme, la plupart du temps, beaucoup plus élevés que leurs parents et leurs grands-parents, mais qui ont des emplois qui ne correspondent pas à ce niveau de diplôme, et qui sont donc, alors ça c'est une des grosses thèses du livre, bon, il partage ça, Todd aussi écrit des choses assez convaincantes là-dessus, l'idée qu'au fond, en fait, l'augmentation du niveau de diplôme et du niveau d'éducation a un effet pervers dont personne n'est responsable, comme les vrais effets pervers, qui est en fait, dans la mesure où les emplois n'ont pas suivi la hausse des qualifications, il a pour conséquence de créer une trouille de la dégringolade et de la précarité, ouais. C'est-à-dire que une trouille justement de dégringoler et
de perdre le peu qu'on a
et qu'on a acquis par les qualifications. Et alors ça, c'est aussi une thèse de Todd. Ah.
C'est rigolo ça, parce que le 19e siècle, une des grandes craintes qu'avait la police à l'égard de l'enseignement, c'était qu'on donne trop d'espoir au peuple et que le peuple devienne plus facilement, se révolte davantage.
Alors, c'est
marrant, parce qu'en fait, c'est des gens qu'on... Là, ceux dont tu parles, là, ceux qui ont un diplôme souvent supérieur à ceux de leurs parents ou de leurs grands-parents, qui ont souvent un travail, tout ça, eux, ils craignent, en fait, ils sont pas au chômage, en fait. Ils ont un boulot, mais un boulot de merde qui paye pas, et ils ont peur de le perdre.
Oui, tout à fait. Mmh. C'est exactement ça. Et il dit que ça, c'est un phénomène qui est massif. C'est comme ça que Todd explique la droitisation de l'électorat français en général. Mmh. Il dit que la France, ce qui caractérise la France, c'est que sur les 30 dernières années, il y a eu une hausse des qualifications absolument sans précédent, et que le système productif n'a pas suivi. C'est-à-dire que, alors, sachant qu'il n'y a pas de responsable immédiat.
C'est De Gaulle.
Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait,
c'est la faute à De Gaulle. Attends, c'est clair.
Et dit que ça pose des problèmes qu'on observe aussi dans certains pays émergents. Mmh. C'est-à-dire, alors c'est pas des... Ouais. Et le cas de la France est particulier de ce point de vue-là. Donc, des gens qualifiés, alors pas super qualifiés, mais qui sont à Bac+3, Bac+4, ou notamment des formations techniques, des BTS, des formations post-bac, mais qui finalement, ont dû quitter les villes où ils habitaient, vivent dans une, on n'arrive pas à se projeter sur l'avenir ou sur l'avenir de leurs gamins parce qu'ils savent pas de quoi sera demain. Mmh. Fait, et qui du coup développe effectivement une crainte de la régression sociale, quoi. Et ça, évidemment, c'est caractéristique, c'est une sociologie caractéristique des zones périurbaines et où sont reléguées une partie des classes moyennes. Alors la troisième couche maintenant, donc les axes de diffusion. Alors là, pareil, modèle épidémiologique, il n'y a pas besoin de chercher trop loin d'après lui, parce que la géographie de ce vote-là est continue au cours des 30 ans. Il voit ça comme une espèce de réplique en quelque sorte géographique de l'explosion de 84. C'est-à-dire que pareil, là c'est le modèle épidémiologique. Le foyer, c'est très impressionnant parce que les votes Front National en 84, les foyers de diffusion, c'est l'Alsace, enfin l'Est de la France, l'Alsace essentiellement. Le Paris-Ouest, donc le 16e arrondissement, 7e, 8e, les arrondissements rupins, Marseille et le bord de la Méditerranée. Et à partir de là, on a une espèce de diffusion explosive. Et donc, cette troisième couche, les axes de communication, ils sont dans la continuité de cette première vague-là, d'après lui. Hein. Et ils se propagent petit à petit, au cours du temps, jusqu'à faire la jonction sur la vallée de la Garonne, notamment. Donc ça, c'est pour vous donner un peu la trame générale.
On va faire une petite pause musicale, et puis on va se dire que quand même, tous ces gens feraient beaucoup mieux de déchirer leur carte d'électeur, comme tous les gens censés. Voilà, à tout à l'heure.
Comme un cyclope, elle avait un œil unique. puisse se mettre à gronder. À sa porte. Ah, ohé, ohé, ohé. Rien à faire pour la réveiller. Ohé, ohé.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa seconde partie. Alors Jean-Mathias a beaucoup parlé, je l'ai un peu laissé beaucoup parler parce que je connais pas grand-chose et tout ça. Donc voilà, donc je pouvais pas l'interrompre pour faire des blagues débiles et avoir l'air intelligent. Chose à laquelle je m'escrime depuis un certain temps. Voilà, alors Jean-Mathias, tu vas lâcher ton portable s'il te plaît pour commencer. Et ensuite tu vas nous parler de ton foutu bouquin là, des électeurs du Front National.
De cet excellent bouquin, tu veux dire, le Paris du Front National, Hervé Lebras aux éditions Autrement de 2015, et donc qui propose donc une espèce d'approche géographique du vote Front National depuis 84 jusqu'à 2015, avec de nombreuses cartes toutes plus instructives les unes que les autres. Et donc c'est de l'antifascisme scientifique.
Et non pas primaire.
Et non pas primaire. Bon, voilà, on adore les antifascistes primaires, secondaires, tertiaires, voilà. Mais donc un vrai conseil de lecture. Alors, j'ai essayé de présenter là dans la première partie de l'émission quelle était un peu sa ligne d'explication, pourquoi il se satisfaisait pas des explications purement idéologiques ou historiques ou psychologiques un peu vaseuses sur lesquelles on tourne la plupart du temps pour expliquer les succès du Front National. Alors, il y a un premier résultat duquel il part, qui consiste en fait à relativiser un petit peu la carte nationale là, avec les trois couches de l'électorat Front National dont on a parlé tout à l'heure, donc le nord-est de la France et les rives de la Méditerranée, les zones périurbaines et la vallée du Rhône et de la Garonne, plus pleine alsacienne. Ça ferait trois couches effectivement où le Front National est particulièrement fort. Il dit le problème de ça, c'est que c'est assez trompeur. Parce qu'en fait, quand on commence à regarder un peu en détail comment ça se passe, les choses sont beaucoup plus compliquées. Parce que, évidemment, il n'y a aucune stabilité du vote Front National depuis 30 ans. Alors, il y a des zones où ça marche, où ça s'ancre. Mais quand on regarde de manière plus fine, c'est-à-dire à l'échelle des communes, à l'échelle des cantons, des départements, en fait, il y a une très grande mobilité de l'électorat. Très très grande mobilité de l'électorat, ce qui fait que c'est rarement les mêmes qui votent Front National. Ça veut dire qu'aussi que beaucoup de gens ont voté ou voteront Front National. Il faut l'avoir en tête, voilà.
C'est comme la grippe, quoi. Tout le monde peut le choper.
Exactement, ouais. Exactement. Mais c'est vraiment le modèle de la contagion épidémiologique, hein, donc ça veut dire qu'on peut la choper, on peut en guérir aussi, on peut, voilà, mais c'est ces modes de diffusion-là auxquels on a affaire. Alors, il prend deux exemples, il prend le cas de Paris, et de la Bretagne, de la région Bretagne. En montrant que dans les deux cas, l'électorat Front National bouge en permanence, en réalité. Il bouge en permanence. Les zones d'explosion, comme il dit, à partir de 84, donc sur Paris, ce sont les quartiers urbains. C'est le 16e, c'est le 7e, 8e arrondissement. Alors, on est en 84, donc c'est 3 ans après l'arrivée de Mitterrand. Alors là, il peut y avoir évidemment des raisons sociologiques qui se présentent, une extrême droite historiquement implantée, une espèce de radicalisation face à l'arrivée du PS. De la gauche à l'époque au pouvoir.
Alors que le PS a déjà fait le virage de la rigueur.
Bref, ça suffit pas. Ça, effectivement, là, on a des raisons qui peuvent, sur en tout cas l'Ouest parisien, s'expliquer assez facilement. Mais après, il montre que sur les 30 années qui suivent, en fait, ça tourne en permanence. Ça va se fixer à un moment dans l'Est parisien, plutôt, historiquement de gauche et plus populaire, comme on dit parfois. Et puis, finalement, ça disparaît. Ça disparaît de la carte. Et après, ça va revenir dans les quartiers de banlieue Ouest.
Haute-Seine.
Ouais. Et puis, donc on va avoir, c'est-à-dire, on a voilà, vraiment d'abord 16e, 8e et 7e arrondissement, donc les arrondissements les plus riches de Paris. Ensuite, ça passe par les quartiers populaires de Paris intramuros. Ensuite, ça explose en périurbain. Et ça revient dans les quartiers urbains. Voilà. Et donc on a une espèce de fixation qui se fait en périurbain et dans les arrondissements les plus riches de Paris. C'est ça la géographie historique du vote Front National.
En Île-de-France.
Pour l'Île-de-France, Paris et Paris banlieue. Voilà. Et donc et ça met 30 ans. Hein, ça met 30 ans. Donc ça veut dire que le vote de 84 n'est pas le même que celui des années 90, n'est pas le même que celui des années 2000, n'est pas le même que celui des années 2015. Alors évidemment il y a des constantes, mais du coup évidemment c'est avec une évolution comme ça, même chose en Bretagne, hein, donc il montre que ça part des fiefs de Vendée villéristes, oui, mais ouais. Après très rapidement en fait ça prend plus, c'est-à-dire que ça va diffuser à l'intérieur des campagnes, ça s'arrête au bocage. Là encore, hein, comme à chaque fois, ça s'arrête dans les régions de bocage, et puis ça va se fixer hein, sur un certain nombre de points, et ça s'ancre, voilà, pareil, ça met 30 ans à s'ancrer. Mais évidemment, quand on a ça en tête, ça veut dire que toutes les explications sociologiques ou idéologiques qui sont habituellement avancées tombent. Parce qu'il n'y a aucune raison que cet électorat bouge.
Parce que si ces raisons sont consistantes, exactement. L'électorat devrait être consistant.
Exactement. C'est-à-dire que si c'était les pauvres, les réacs d'extrême droite, les anciens poujadistes ou un tel,
ils voteraient toujours FN.
Ils voteraient toujours FN. Mmh. C'est-à-dire que ça serait stable effectivement au cours du temps, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est évidemment un argument important, et ça vaut effectivement à toutes les échelles. Alors les seules mutations significatives en termes d'enracinement, c'est sur le Nord-Pas-de-Calais, quoi, c'est-à-dire les fiefs socialistes qui ont basculé, donc les fiefs industriels, de culture industrielle. Donc là y a, mais c'est le seul, hein, et à l'échelle du pays, c'est pas significatif. Donc alors, comme je l'ai dit au départ, donc l'implantation historique de l'extrême droite ne suffit pas à expliquer ça non plus, parce que historiquement, si vous prenez le cas de Paris, il n'y a jamais eu d'implantation historique de l'extrême droite dans l'est et le sud et le nord de Paris, voilà, bon, dans les quartiers dans les beaux quartiers oui, mais ailleurs non. Donc ça marche pas. Les slogans, on a vu que ça marchait pas non plus. Et alors là aussi, il y a des cartes très précises où ils montrent la déconnexion qui existe entre la présence des immigrés, la sécurité réelle, c'est-à-dire les taux de délinquance, d'agression sur les personnes, etc., et les votes Front National. Il y a aucune. Alors il y a une connexion en 84. Hein, dans la plupart des zones, il y a une connexion, mais sur les 30 ans. Ça ne correspond plus à rien. C'est-à-dire que c'est pas les victimes de l'insécurité ou les gens qui sont confrontés à une immigration massive qui votent le plus Front National sur les 30 ans. Ça n'a aucun sens de dire ça. Alors il y a des foyers, évidemment, il y a des permanences, il y a des racistes historiques, enracinés, etc., tout ce qu'on voudra, mais sur la progression sur les 30 ans, ça n'a aucun sens, hein, comme explication. Alors, là, encore une fois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Bon, là, on peut détailler un petit peu. Le Front National, sur la première couche, là, hein, c'est-à-dire tout le nord-est de la France et les rives de la Méditerranée, il explose surtout, ça c'est une analyse que je trouve intéressante, dans les zones qui ont en fait subi une forte migration interne, c'est-à-dire là où il y a eu un exode rural massif, hein, où effectivement les structures sociales villageoises ou de petites villes ont été profondément bouleversées par les départs vers les grandes villes, etc. Là où il y a une migration interne, les votes du Front National explosent. C'est-à-dire que c'est pas l'immigré lointain qui fait peur. D'après son explication, lui, c'est plutôt que c'est la déstructuration des liens sociaux liés à une immigration interne.
Alors, donc là, on vient à l'explication qu'il donnait pour les pays de champs ouverts, pour les trucs comme ça, c'est-à-dire destruction de la sociabilité traditionnelle.
Oui, sauf que, alors ça, cet argument-là, l'argument qu'il donne là, sur les zones à immigration interne, ça vaut surtout pour le rivage méditerranéen.
D'accord.
Qui sont pas des zones d'open field, c'est encore autre chose. Alors je cite, donc c'est page 59.
Oui, mais dans les deux cas, il pointe une cause un peu équivalente.
Un peu équivalente.
C'est pas les mêmes causes, mais au bout du compte, ça.
Sauf qu'en Méditerranée, sauf que dans le sud de la France, tu as une immigration, mais c'est une immigration de Parisiens.
Oui.
C'est une immigration de Parisiens.
Oui, non, mais je parlais de.
C'est pas les mêmes. C'est pas le cas en Picardie, c'est pas le cas en Champagne, c'est pas le cas en Haute-Marne, etc. Là, t'as une immigration de Parisiens qui s'installe, effectivement, en résidence secondaire ou en retraite. L'immigration des retraités est massive dans le sud de la France. Et elle change le tissu social. Donc, effectivement, t'as les locaux, entre guillemets. Et les vrais immigrés sur place, mais massivement,
c'est
des Parisiens, des Bretons ou des gens du Nord. Voilà. Alors, il explique ça comme ça. Et donc, ça vaut beaucoup sur, effectivement, l'aspect militaire. méditerranéen. Donc il dit ça comme ça, il dit les communes où le vote FN était le plus important n'étaient pas celles où les immigrés résidaient le plus. En revanche, elles étaient souvent celles où les immigrations internes avaient été les plus intenses, celles où les départs et les installations de population étaient en proportion importante. Le vote aurait, dans ce cas, reflété un rejet non pas de l'immigration étrangère, mais de toute immigration, fût-elle issue de quelques dizaines de kilomètres de la commune concernée. À l'appui de ce constat, encore en 95, le vote FN était plus élevé dans les grandes stations touristiques du bord de mer que dans les villes industrielles les plus proches. Donc sur une échelle fine, on voit que c'est ce type de phénomène-là qui est à l'œuvre. Alors sa conclusion, c'est-à-dire, voilà, on peut ranger ces cas en apparence assez différents sous un chapeau commun inspiré de l'anthropologie. Le rejet de l'immigration se manifeste quand les immigrés ne sont ni trop près, ni trop loin. C'est là où effectivement le Front National fait le plein sur sa critique de l'immigration. C'est là où, en fait, où il n'y en a pas, en réalité. Hein, mais où il y a une perception de l'immigration effectivement interne à la France qui fait que... Alors, il dit, l'exemple qu'il prend, il dit les anthropologues caractérisent ainsi les mariages qui doivent éviter l'inceste mais demeurer au sein de la communauté. C'est ça la comparaison qu'il prend. Dans tous les cas qui précèdent, la formule s'applique pourvu que l'on remplace mariage par vote FN. Lorsque les rencontres avec les immigrés sont rares, elles ne suscitent pas l'inquiétude. Ça, c'est les zones où vraiment... Voilà. Lorsque les immigrés sont sur place, on s'aperçoit vite qu'ils travaillent, qu'ils partagent les mêmes difficultés, qu'ils réagissent de la même manière, que le détail de leur vie n'est pas éloigné d'une autre et qu'ils sont très divers. Le problème surgit, le problème si on peut dire, dans l'entre-deux, lorsque le contact est assez fréquent, mais sans entraîner la formation de liens permanents. Ainsi, pour le banlieusard qui croise des immigrés en se rendant à son travail chaque jour en RER, ou pour l'habitant d'une station balnéaire qui est en contact quelques semaines par an avec des touristes qui changeront l'année suivante, ou le Perpignanais des quartiers pavillonnaires éloignés, qui ne seront plus que rarement dans le centre-ville dont le quartier Saint-Jacques s'est dégradé et a perdu ses commerces. Dans tous les cas, il y a juxtaposition de populations différentes sans que des liens se nouent, donc inquiétude, sentiment d'insécurité, d'étrangeté. On retrouvera bientôt cette explication à une échelle plus large. Alors ça... Le facteur immigration interne, je trouve, le trouve assez savoureux, parce que ça, on n'en parle jamais, pour le coup, hein, effectivement. Dans le sud de la France, que ce soit les vitouistes ou quoi, c'est quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire, bon, alors, évidemment, le Parigot, etc. Ou le retraité, encore une fois. Hein, voilà, c'est sur. Avec cette espèce de. Cette prise en compte aussi du temps long, quoi. Le fait que les relations sociales, la confiance de voisinage, les formes de vie et les solidarités que ça crée, ça prend pas une ou deux générations. C'est sur des choses qui sont beaucoup plus anciennes et qui, du coup, une fois qu'elles sont rompues, mettent beaucoup plus de temps à se renouer éventuellement. Hein. Donc ça, c'est ce genre d'approche que je trouve assez importante. Alors concernant la violence, il note que statistiquement, on note qu'il y a une espèce de surappréhension de la violence en milieu rural notamment, donc ce qui explique aussi qu'il y a des votes élevés là où il n'y a ni immigrés, ni particulièrement insécurité.
Il ne parle pas du tout des médias et du rôle qu'ils pourraient avoir.
Les médias, si tu veux, oui, mais bon... C'est,
parce que alors, le problème, c'est que comme c'est une cause nationale, c'est difficile de mesurer ses effets.
C'est ça.
C'est ça le problème.
Alors, si tu veux, après, son idée, ça consiste à dire, évidemment, tu peux avoir de l'enfumage, de l'intox médiatique et papy machin avant le deuxième tour des élections et tout ça. Bon, évidemment, ça joue. Mais pas sur 30 ans, enfin, tu vois, c'est le...
Oui, puis ça devrait avoir des effets uniformes, ou du moins des effets constants en fonction d'autres facteurs.
Exactement.
En réalité, ça n'en a pas.
Ouais. Et en réalité, ça n'en a pas.
Très peu, ou du moins pas mesurable. Enfin, ouais.
Et en tout cas, ça ne te permet pas d'expliquer les variations du vote à une échelle plus fine, quoi. Alors donc plus globalement ce qu'il explique de manière un peu précise. Bon, ça je rentre pas dans les détails parce qu'en fait il a tout un appareil d'explication qui prend en compte, c'est les travaux qu'il mène avec Todd, où ils insistent beaucoup sur en fait la forme des structures familiales, la forme des systèmes de transmission du patrimoine et le type d'exploitation, notamment en zone agricole. C'est-à-dire qu'en fait, ils insistent toujours beaucoup là-dessus, sur la culture religieuse aussi. Et en fait, la combinaison des deux permet d'expliquer la plupart des phénomènes sociaux, politiques, en France ou ailleurs. Hein. C'est un peu ça la méthode par laquelle ils procèdent. Et c'est ça qui le conduit à dire, mais alors carte à l'appui, et là, évidemment, ça colle. Enfin, je veux dire, ça colle au canton près, quoi. Pratiquement au cadastre, en zone d'open field, donc, il y a un type de sociabilité, il y a un type de structure familiale, souvent beaucoup plus collectif, beaucoup plus égalitaire aussi, que par exemple dans l'ouest de la France où on a une transmission du patrimoine qui est beaucoup plus individualisée, beaucoup plus hiérarchisée, etc., avec différents types de modèles familiaux qui accompagnent. Bon, et bien ça, effectivement, là, ça c'est pertinent pour expliquer les succès du vote Front National. Là, on trouve des cartes qui collent là. Voilà. On trouve des cartes qui collent et on trouve des cartes qui collent avec aussi le type de sociabilité que ça implique, c'est-à-dire les rapports aux voisins, à l'environnement, à la famille proche évidemment, mais aussi évidemment au voisinage plus ou moins proche et au-delà. Donc ça, évidemment, pour tout ce qui est la première couche hein, du Front National, les bastions, hein, donc le tiers nord-est de la France, et puis... Et la Méditerranée, c'est ça. En fait, il y a une crise de sociabilité. Alors, elle commence effectivement après les Trente Glorieuses. C'est les grandes surfaces, c'est l'exode rural, c'est la périurbanisation, c'est la gentrification des villes, etc.
En fait, Poujade avait tort d'attaquer les grandes surfaces.
Ah ben oui, électoralement
pour vanter le petit commerce.
Électoralement, ça marche bien quoi. Hein. Bon voilà. Alors donc ça c'est pour l'enracinement, l'explosion, la diffusion de cette première couche d'électorat Front National, avec donc toujours je l'ai dit tout à l'heure, mais là vous avez des cartes vraiment qui sont étonnantes là-dessus. Un modèle de diffusion souvent conforme à la diffusion des épidémies, avec voilà des phénomènes de contagion, de fixation. Et avec des obstacles aussi. Alors bon, là, c'est pas des obstacles médicaux, mais donc les villes, les bocages, et encore les villes, il faut voir, parce qu'en 84, il y a un électorat frontiste dans les villes. Donc une contagion qui passe par les marges, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de Paris, et puis qui après revient se fixer dans les centres de départ. Hein. Et donc il y a comme ça, en fait, la force du Front National aujourd'hui, c'est d'avoir finalement arrivé à sédimenter, encore comme ça, des espèces de couches d'électorat successives, de manière à atteindre des seuils extrêmement élevés. Ça ne veut pas dire que l'électorat est homogène, ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes raisons de voter, évidemment, pour la Front National, les uns et les autres, mais il se trouve que, voilà, il y a cette conjonction étonnante, où des électorats qui ont des intérêts éventuellement complètement contradictoires, des raisons de voter Front National complètement différentes, à un moment donné, ça cristallise. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les slogans du Front qui sont les mêmes depuis 30 ans, avec l'absence de programme total et délibéré du Front National.
Oui, non, ils ont un programme. Hein,
ouais,
ils ont un plus programme. Retraite aux 60 ans, augmentation du SMIC.
Ils ont un certain nombre de slogans, mais qui sont comment dire, voilà, bon, on peut pas dire qu'ils brillent par la recherche de leur proposition. Mais donc, vous avez aussi ces facteurs-là. Les facteurs, on est aussi sur les facteurs, ce que je disais tout à l'heure, les facteurs géographiques stricts, l'altitude, etc. ça, c'est fascinant. Oui, c'est fascinant. Hein, le vote.
Non, mais voilà. Il n'y a pas de bureau de vote dans les Alpages, c'est pour ça.
Non, non, mais t'as des bureaux de vote, t'as des circonscriptions.
Ils vont voter en bas.
C'est en pourcentage. Hein, c'est en pourcentage. C'est-à-dire que, voilà, dès que tu dépasses 1500 mètres d'altitude, voilà, les résultats en pourcentage du Front National s'effondrent. Voilà. Alors pourquoi ? On va savoir. Mais de fait, ça colle de manière extrêmement précise. Voilà. Bon, c'est un facteur beaucoup plus précis que voilà, le vote ouvrier, ou le vote ceci, ou le vote cela.
Après, ce qui est difficile, c'est de corréler ce genre de fait avec des raisons. Mais
oui, bien, il le fait pas. Hein, pour le coup, il n'a pas la prétention de démonter le discours intégralement. Alors ça, c'est pour la première couche. Alors il dit ce qui est permis un saut, c'est 2007. Alors ça, pour le coup, historiquement, c'est récent. Mais il dit qu'en fait, la campagne de Sarko en 2007. Alors là, elle a permis, d'après lui, en fait, la progression du Front National avait toutes les raisons de plafonner et de s'arrêter en 2007. C'est-à-dire qu'il y avait eu l'échec de Le Pen-PR. On était sur la queue de comète de cette dynamique-là. Et ce qui se passe en 2007, c'est quoi? C'est la campagne de Sarko qui va, en fait, récupérer des thèmes idéologiques en pensant qu'effectivement, en insistant sur l'idéologie qui va, il va casser le Front National. Ce qui est une erreur, d'après le bras, puisque c'est pas sur ces raisons idéologiques-là massivement que se fait le vote à ce niveau-là, en tout cas pour le Front National. Alors il va récupérer une partie des électeurs, notamment en centre-ville, hein, effectivement, dans les marges, dans les campagnes ou dans les zones périurbaines, que dalle. Mais par contre, ça change tout parce que il institutionnalise les slogans. Et là, il va en fait, comment dire, permettre au Front National de cristalliser des nouvelles raisons de voter pour lui, qui n'existaient pas encore auparavant. Les raisons, on les a vues. Et là, en fait, le Front National devient le parti de ceux qui agrutent, de ceux qui craignent l'exclusion, la relégation, et devient le parti de ceux qui craignent les effets de ce qu'il appelle la pompe refoulante. C'est-à-dire non seulement il n'y a plus d'ascenseur social ni même de pompe aspirante, ce qui a été le cas jusque les années 80 90, et qui fonctionne encore, c'est assez frappant, dans toutes les régions où le Front National ne progresse pas. C'est toutes les régions où il y a effectivement une promotion sociale, où il y a effectivement une corrélation plus étroite entre la hausse des qualifications et le degré d'emploi et la promotion sociale au sens large. L'Ouest de la France a bénéficié à plein notamment des politiques européennes, des politiques de gauche successives depuis 81, des facteurs qui étaient des facteurs de ralentissement avant, comme voilà le poids de la religion catholique, etc., sont devenus en fait des facteurs de promotion sociale, parce que on a investi les écoles, notamment les écoles privées, la famille est devenue un milieu protecteur qui a permis une ascension sociale réelle, etc. Donc le Front National ne progresse pas là-dedans, il prend pas. Par contre, il va servir de marqueur pour tous ceux qui craignent effectivement les effets de cette pompe refoulante, donc tous ceux qui ont des diplômes plus élevés que leurs parents, grands-parents, etc., mais qui n'ont pas la place qui correspondrait, et qui craignent en permanence de redescendre, redégringoler. Et alors ce qui se passe, c'est là, en fait, c'est après 2007, hein, si on observe les cartes, c'est après 2007 que vont se réveiller dans ces zones-là, mais là, il y a une part de hasard, et de conjonction un peu hasardeuse, que par cet électorat-là, donc qui craint une relégation, vont se réactiver des vieux terroirs électoraux de l'extrême droite des années 50 et 60. Donc en fait, il n'y a pas de continuité historique. Mais il se trouve que les zones où on a effectivement des techniciens supérieurs qui sont relayés dans les grandes banlieues des villes moyennes, eh ben, il se trouve que c'est aussi des terrains qui avaient porté un électorat fort, notamment à Poujade, notamment à Villiers. Et donc en fait, c'est après 2007 que ces zones-là vont être réactivées. Donc d'une certaine manière, si on prend les résultats de 2015, aucun homme politique, aucun parti politique peut rêver d'une conjonction aussi favorable que ça, en réalité. C'est-à-dire que voilà, il y a des couches anciennes qui se trouvent réactivées par des couches récentes qui sont poussées vers le Front National par un parti concurrent. Donc ils font le plein, quoi. Ils font le plein. En tout cas, ça repousse des limites qui jusqu'à présent étaient profondes, anthropologiques, géographiques, etc. Donc c'est comme ça que ça marche quand on regarde l'évolution des cartes. Et c'est là évidemment que joue à plein ce qu'il appelle l'effet pervers de la hausse des qualifications, bien sûr. Donc le fait que voilà, hausser le niveau d'éducation, ça rend pas les gens plus assoiffés de justice ou de liberté ou de parti socialiste. Ça les rend en fait plus inquiets sur leur avenir, parce qu'en fait ils trouvent pas de boulot correspondant et qu'ils ont qu'une trouille, c'est de redégringoler malgré leur diplôme et leur qualification. Et ça, c'est effectivement un truc assez massif. Alors du coup, pour terminer peut-être rapidement, sa conclusion en fait, elle reprend le titre du bouquin, c'est-à-dire la nature du pari en fait dont il est question.
Et, oui, parce que qu'est-ce qu'espèrent les électeurs, est-ce qu'on peut le savoir? Alors, ça, est-ce qu'ils se penchent là-dessus ou pas du tout?
Ils pensent que c'est un pari qui est relativement rationnel, à condition que on se mette dans la tête de quelqu'un qui estime qu'il n'a
pas grand-chose à perdre.
Qu'il a pas grand-chose à perdre, qu'il a rien à gagner de la part des autres partis, et que le peu qu'il a à gagner est sans doute fort improbable, mais que c'est déjà ça. Et ça veut dire que c'est un pari électoral qui est pas rationnel au sens où si tu veux tu miserais sur des petits gains probables, mais comme il y a pas de
petits gains probables.
Ouais. Eh ben, mieux vaut viser sur un gros gain improbable. Et d'une certaine manière, il y a bien une forme de rationalité derrière ça. Et ça permet effectivement d'agglomérer tout un tas de personnes, d'individus avec des formes de vie différentes, des catégories sociales différentes, des histoires différentes, des géolocalisations différentes, etc. Et donc, alors, c'est en résumé, donc je peux dire ça. Donc, là, c'est page 142 à la fin. Donc, il nous explique, voilà, l'électorat FN est finalement dans la situation suivante. Il pense n'avoir plus rien à attendre du système actuel. Tout changement offre une espérance positive, même s'il a une probabilité faible de se produire, et peut-être une probabilité encore plus faible de lui être favorable, car les révolutions sourient rarement à ceux qui les déclenchent. Loin d'être irrationnel ou de marquer une simple protestation, l'attitude de l'électorat FN est donc parfaitement rationnelle, au sens où la théorie économique classique sont rationnelles. Mais l'ensemble, repose sur deux postulats. Le premier, que l'électeur n'a plus rien à attendre, et on a montré que le blocage de l'ascension sociale et que la ségrégation spatiale le justifiaient. Le second préalable, évidemment, c'est que le changement lui sera favorable. Alors ça, c'est hypothétique, mais la propagande du FN est axée pour l'en persuader, et c'est finalement la seule ligne conductrice du parti au cours des 30 dernières années. Il n'y aura plus d'immigrés, il n'y aura plus de personnel politique corrompu, il n'y aura plus de concurrence des produits étrangers, etc., etc. Et alors, il dit qu'en fait, ce qui est assez, je ne sais pas si c'est savoureux le mot, mais assez étonnant, c'est qu'au fond, la logique qui est derrière ce type de vote est au fond exactement la même que celle qui est derrière le choix du migrant. C'est-à-dire que C'est-à-dire que oui, voilà, à court terme et fort probablement,
tu prends le risque d'un changement considérable.
Tu prends le risque d'un changement considérable et même y
dans
compris
l'espoir
d'une
d'un
dégradation.
Fait d'un bien faible.
Mais dans le fait, dans l'espoir, effectivement.
Ah, mais c'est la rationalité de la loterie, en gros.
Exactement. C'est l'image qu'il prend. Voilà. Alors, il explique voilà, le parallèle. Il fait un parallèle avec l'exode rural qui a souvent été expliqué de cette manière-là. L'agriculteur ou l'habitant de la campagne a un niveau de vie faible, mais il ne peut espérer aucune amélioration importante de sa situation, même s'il travaille avec acharnement. En migrant vers une grande ville, il court un risque élevé d'avoir une vie plus misérable qu'à la campagne, mais il a aussi une faible probabilité de progresser dans la société, d'atteindre un niveau social ou une richesse qu'il n'aurait jamais pu obtenir en restant dans son village. Il choisit donc l'aventure de la migration car elle seule lui donne une chance, même minime, de changer sa vie. Il est amusant que le même modèle serve à décrire le comportement de l'électeur FN et celui de son épouvantail, le migrant. On dit le bras. Alors bon, tout ça pour dire quoi ? Parce qu'en fait, il y a rien de profondément révolutionnaire dans toutes ces explications-là. Mais je trouve, enfin, moi, c'est un des rares livres où je trouve les arguments mis à leur juste place, les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire en tenant compte, voilà, de l'évolution historique de l'électorat, de leur répartition géographique assez fine, hein, puisque voilà, altitude comprise, des mutations effectivement sociales générales, mais aussi effectivement des formes de sociabilité ou des relations, voilà, de voisinage qui vont avec, de la place de l'idéologie, bon. Qui a une place, je veux dire, il ne s'agit pas de dire que ça a aucun sens, mais tout ça, effectivement, mais là, a le mérite d'être mis en place avec des outils précis, des cartes précises, et une répartition, voilà, une analyse historique que je trouve intéressante. Donc voilà, le pari du FN avait le bras aux éditions Autrement, que je conseille vivement à tous les auditeurs.
Voilà, c'était Jeudi Noir, qui s'achève maintenant, et on va laisser la place à Entre Chien et Loup, au camarade Willy, et voilà, on se retrouve dans 2 semaines, peut-être, si jamais. À bientôt.
Something.